Vous êtes bien sur RVM, ne quittez pas.
Bienvenue dans l'économie pour tous, l'émission consacrée à l'explication des grands phénomènes économiques et sociaux contemporains à travers l'actualité, par Renaud Chartoir, professeur de sciences économiques et sociales, et son complice Éric Carlier. Bonjour Renaud.
Bonjour Eric.
Comment vas-tu aujourd'hui ?
Alors, si jamais tu sens dans ma voix une petite fatigue liée à des quintes de toux répétitives, c'est normal. Sinon, ça va.
D'accord. Tu es en train donc juste d'illustrer dans l'émission le fait qu'on rentre dans l'automne, c'est ça ?
Ouais, un petit peu, voilà. Et puis, alors, j'ai un temps pensé que c'était le retour du Covid, mais non, j'ai fait un test qui s'est avéré négatif.
Bon, bah écoute,
et toi, Eric, depuis la dernière émission ?
Eh ben écoute, moi ça va parfaitement bien. Écoute, pas encore atteint par les miasmes qui vont bientôt déferler sur la population. Donc j'en profite.
Eh bien écoute, profite.
Eh bien Renaud, bon, la dernière fois nous en étions restés dans le premier numéro de notre saison 9, Renaud, sur la définition de ce qu'était l'inflation. Et on était resté quand même sur le fait que l'inflation est un phénomène hautement sujet à interprétation, hautement sujet à controverse, hautement sujet à glissement et à variation. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir de tout ça, Renaud ? Parce que finalement, c'est assez difficile à mesurer, sauf si on a des critères très très précis.
Alors, c'est d'autant plus difficile que, comme je l'avais expliqué la dernière fois, mesurer l'inflation implique tout un ensemble de conventions, de parti pris, de règles que l'on définit à l'avance. Ces conventions expliquent par exemple qu'on fasse un calcul en glissement et non pas en moyenne et que cela puisse aller à l'encontre de la sensation d'augmentation des prix que nous ressentons au quotidien. Mais surtout, il y a une deuxième grande explication au fait que l'impression, la sensation que nous avons le plus souvent sur l'inflation est assez différente du calcul de l'INSEE. Et là, on va rentrer dans un point un peu technique, mais qui est très important et qui fait écho à un phénomène contemporain dont on parle beaucoup ces dernières semaines. Donc le deuxième problème, il est que on a l'habitude de définir l'inflation comme étant la hausse généralisée des prix. Mais en fait, les choses sont un peu plus compliquées que cela. Parce que si jamais, par exemple, j'achète un nouvel ordinateur, que l'ancien ordinateur, je l'avais acheté 1000 euros, et que le nouvel ordinateur, je l'achète 1100 euros, je pourrais spontanément penser qu'il y a donc eu une inflation de 10% sur le prix de l'ordinateur. Voilà. Mais cela serait vrai à une seule condition, c'est que je rachète exactement le même ordinateur, dans exactement la même gamme. Or, on le sait très bien, avec le progrès technique, avec les évolutions technologiques, on a tout un ensemble de biens qui, régulièrement, sortent dans des nouvelles versions qui impliquent du progrès technique. Alors,
ce que tu veux dire là, Renaud, c'est que finalement, en achetant 1100 euros un nouvel ordinateur, il y a peut-être une part qui est liée à l'inflation et une autre partie qui est liée à l'évolution technologique, à l'amélioration du produit ou à même des modes de distribution ou de production.
Exactement. Et là où il y a un hiatus important entre le calcul de l'INSEE et notre ressenti propre, c'est qu'effectivement, comme tu viens de le dire, l'INSEE, elle, va considérer que sur mon exemple, en fait, il n'y a pas eu 10% d'inflation. Il est même possible que l'INSEE considère qu'en fait, sur cet ordinateur, le prix a baissé. Parce que si l'augmentation de la vitesse du processeur, l'augmentation de la quantité de gigas disponibles sur le disque dur, si la nouvelle caméra mise en place, si on additionne toutes ces nouveautés et qu'on considère que l'amélioration apportée excède les 100 euros, alors l'INSEE va considérer qu'en fait, sur ce produit, le prix a baissé. Et c'est ce que fait très régulièrement l'INSEE sur les voitures, les ordinateurs, les smartphones, les appareils photo.
Oui, mais alors, finalement, ça marche pour les produits de haute technologie. Mais quand j'achète des bananes ou du camembert au supermarché, c'est pas tout à fait la même façon de voir les choses.
Exactement. Et c'est bien là où, en fait, il y a un écart important entre notre ressenti et la réalité, c'est que notre ressenti, c'est tout ce que l'on achète au quotidien. Et ce que l'on achète au quotidien, c'est, comme tu l'as bien dit, des produits sur lesquels il n'y a pas d'innovation technologique. La baguette de pain, la banane, bon, très bien. Mais, en fait, sur l'ensemble de l'année, ces dépenses représentent, au final, une faible part du montant total de tes dépenses annuelles. Actuellement, l'alimentation représente toute l'alimentation incluse, 12% en fait du budget moyen des ménages. Alors c'est vrai qu'une voiture, on n'en achète pas souvent, mais cette voiture, l'année où on l'achète, elle représente quand même, elle peut facilement représenter 15, 20, 25% du montant total de notre consommation de l'année. Et les smartphones, etc. Et donc, en fait, quand on met bout à bout ces achats rares mais chers, sur lesquels l'INSEE inclut un coefficient de progrès technique qui fait qu'elle considère qu'en fait la hausse des prix est bien moindre que ce que l'on ressent, voire même négative, alors on explique la différence entre le calcul officiel et le ressenti par l'ensemble de la population. C'est important à avoir en tête parce qu'effectivement, c'est loin d'être déconnant. Alors c'est loin d'être déconnant, mais en même temps, sans vouloir pasticher un président de la République, en même temps, c'est quand même problématique. Si moi je dois m'acheter un nouveau smartphone, aujourd'hui, le smartphone que j'ai, on ne le trouve plus. Il est plus vendu. Donc, je vais être obligé d'acheter un nouveau smartphone qui implique du progrès technique, qui intègre du progrès technique, mais du progrès technique dont peut-être je ne veux pas, dont peut-être je ne vais pas me servir. Donc l'INSEE, elle, va considérer qu'avec le nouveau smartphone que j'ai acheté, en fait, j'ai gagné en pouvoir d'achat, puisqu'il coûte, en intégrant le progrès technique, moins cher que le précédent. Mais moi, mon ressenti, ça va être qu'on m'a fait acheter 1000 euros un produit qu'avant j'achetais 500 euros pour me vendre des services qu'en fait je ne vais pas utiliser. Donc, il n'empêche que ce que j'ai dépensé, c'est bien 1000 euros. Et c'est pas 500 euros comme avant. Donc, le smartphone a bien coûté deux fois plus cher pour moi. Il n'aurait pas coûté deux fois plus cher si réellement j'utilisais tous les nouveaux services qui m'étaient donnés. Parce que ces nouveaux services ont un coût et il est normal donc qu'ils soient déduits du montant du prix. Mais si c'est pas le cas, alors, contrairement au calcul de l'INSEE, en fait, j'ai perdu en pouvoir d'achat.
D'accord. Donc, en fait, là, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est qu'il y a une différence qui peut être très, très importante entre les statistiques et le ressenti de chacun d'entre nous au quotidien.
Tout à fait. Et en l'occurrence, il est difficile de dire qui a raison et qui a tort. La seule chose que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, tous les concepts que l'on utilise en économie, bien, ce sont des constructions. Hein, dans l'inflation, c'est un concept qu'on a construit, qu'on a délimité. Et en fait, on ne peut réellement comprendre les chiffres officiels que si on sait la manière dont ils sont calculés et ce qu'ils signifient.
Alors, donc, finalement, c'est peut-être pour ça, tu vas me le confirmer certainement, qu'il y a une différence entre inflation et perte de pouvoir d'achat.
Alors, oui. Alors, il y a aussi une autre raison qui rentre en ligne de compte, c'est l'évolution des salaires, l'évolution des revenus, puisque l'évolution du pouvoir d'achat, c'est l'évolution des revenus, mais en prenant en compte l'évolution des prix. Donc, par exemple, pour faire un calcul mathématiquement faux, mais qui va être simple à faire, si ton salaire augmente de 5% et que l'inflation est de 5%, alors on va considérer qu'en fait, ton pouvoir d'achat a stagné. Donc, la première chose, c'est que pour mesurer le pouvoir d'achat, il ne faut pas que le calcul de l'inflation. Il faut aussi le calcul de l'évolution des revenus. Mais pour peu que le calcul de l'inflation soit différent de notre ressenti et de la réalité de la hausse des prix que nous subissons, alors oui, les difficultés, enfin, en tout cas, les choix qui ont été opérés sur le calcul de l'inflation vont avoir un impact sur le calcul officiel du pouvoir d'achat. Et en fait, ça peut générer des différences par rapport à la réalité que nous connaissons.
D'accord. Alors finalement, entre ces deux notions, là, on est un petit peu perdu. Est-ce qu'il n'y a pas une troisième notion, qui reste peut-être à inventer d'ailleurs par les économistes, qui serait plus proche du ressenti qu'on a au quotidien et qui serait peut-être un juste milieu entre inflation et perte de pouvoir d'achat ?
Alors, l'INSEE calcule chaque mois ce qu'elle appelle l'inflation ressentie, donc en faisant simplement un sondage auprès d'un échantillon représentatif de la population française, en leur disant, bien, sur le mois dernier, quelle sensation avez-vous eu d'augmentation du prix moyen de votre panier de consommation ? Donc évidemment, cette inflation ressentie, elle est biaisée elle aussi. D'une part, parce que on ressent avant tout ce qu'on achète au quotidien, donc les baguettes, les bananes, tout ça, et ce sont des prix volatiles et qui ont tendance à avoir une inflation plus importante que, comme je disais tout à l'heure, les produits de haute technologie, mais que nous n'achetons quasiment jamais. Donc on l'inflation ressentie, on peut quand même dire qu'elle est fausse elle aussi, parce que elle se base sur un ressenti de consommation qui ne prend pas en compte l'intégralité de notre consommation. Alors est-ce qu'il serait possible d'avoir un juste milieu? Sans doute pas, parce qu'en fait les deux concepts ne disent pas la même chose. Par contre, ce qui est intéressant pour l'économiste ou l'homme politique, c'est qu'au final, nos décisions de consommation, nos décisions d'épargne, nos décisions d'investissement, elles vont pas dépendre du montant officiel de l'inflation selon l'INSEE, que parfois d'ailleurs nous ne connaissons même pas, elles vont avant tout dépendre de notre ressenti d'évolution de pouvoir d'achat. As-tu entendu parler, Eric, à ce sujet d'un phénomène qu'on appelle la shrinkflation ?
Alors, oui, j'en ai entendu parler, mais ça reste un concept vague dans mon esprit.
La shrinkflation, c'est une nouvelle tendance qui, pour masquer la hausse des prix, ce sont des entreprises qui font le choix de réduire les quantités qu'elles vous vendent. Donc, par exemple, elles vont continuer, elles vont continuer à vous vendre dans le même bocal, le même produit, mais simplement, il y aura 150 grammes de moins.
Absolument.
L'entreprise va dire, mes prix n'augmentent pas. Mais en fait, on peut bien considérer qu'en fait, il y a inflation, même si les prix n'augmentent pas, parce que si tu rapportes ça au gramme, enfin à la quantité achetée, en fait, le prix a bien augmenté.
Alors oui, ça existe sur deux tableaux, c'est-à-dire qu'il y a la quantité vendue et il y a la qualité du produit aussi qui peut être dégradée puisqu'on utilise des matières premières moins nobles pour le fabriquer et on fait croire que c'est le même produit.
Tout à fait. Donc dans les deux cas, en fait, quand bien même les prix stagnent, l'économiste, lui, va considérer qu'il y a quand même une inflation. Et donc là, en l'occurrence, on peut dire que ce sont les économistes qui sont au plus près de la vérité, hein, puisqu'ils vont, là, ils vont mettre un coefficient positif d'inflation sur les produits correspondants.
D'accord. Alors est-ce que c'est un phénomène très développé, ça? Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt récent.
Oui, et j'avoue que je n'ai pas encore lu d'études qui montreraient dans quelle mesure ce phénomène se généralise ou non, ou si ça ne concerne que quelques produits et encore extrêmement minoritaires. J'avoue que je ne sais pas. Donc il m'est difficile d'en dire plus.
Et il n'en demeure pas moins que ça ressemble un petit peu quand même à quelque chose de malhonnête, et pourtant ça ne tombe pas sous le coup de la loi.
Oui, alors les entreprises en question se défendraient en disant par exemple que quand elles réduisent les quantités, c'est marqué sur le paquet. Hein, c'est le même paquet, mais avant il y avait marqué 250 grammes, dorénavant il y a marqué 200 grammes. Et donc c'est au consommateur d'avoir une consommation suffisamment éclairée pour s'en apercevoir, qui est quand même, on peut le dire, une façon de dire les choses un peu malhonnête.
Alors pour avoir une consommation éclairée, je crois qu'il faut une bonne paire de lunettes déjà pour rentrer dans le magasin et 2 ou 3 heures pour faire ses courses pour avoir le temps de lire l'intégralité des étiquettes des produits qu'on achète.
C'est ça, et avoir un carnet sur lequel nous avons auparavant noté toutes les quantités qu'il y avait sur chaque produit qu'on achetait pour qu'on puisse
avoir
comparer.
Un historique.
Donc effectivement, ça complique un petit peu les choses. Eric, pour finir l'émission, j'ai une question à te poser avant qu'on entre la semaine prochaine dans les causes de l'inflation. Pourquoi subit-on cette inflation-là? Juste un dernier point technique. Historiquement, on est aux alentours de 6% d'inflation annuelle. Ça varie chaque mois, mais c'est bon. Le dernier chiffre que j'ai entendu là, c'était 5,8%, mais bon, on est autour de 6%. Est-ce que c'est vraiment énorme 6%? Ou est-ce qu'on a déjà connu pire? Et sur la moyenne, en gros, du siècle précédent, on se situe où? De version haute, basse, moyenne?
Alors, moi qui suis loin d'avoir tes connaissances, je me targue tout de même d'avoir une petite culture économique. Et j'ai aussi des souvenirs en tant que consommateur moi-même. Et je me souviens très bien qu'avant une certaine époque, qui est vraiment celle de l'entrée dans l'Europe, et dans les régulations de l'Europe, il y avait dans les années 70 et 80 un taux d'inflation qui frôlait les 10% annuels, non? Voire 15%.
Oui, alors, pas exactement au moment où tu parles de l'euro, ça, au moment où on est rentré dans l'euro.
Oui, c'est ça, oui.
C'est ce que tu disais. Ouais. Oui, alors, non, on avait déjà fortement réduit l'inflation à cette période-là. Mais oui, les 30 glorieuses ont été des périodes durant lesquelles l'inflation est repartie à la hausse, et évidemment, les années 70 et début des années 80 ont été ce qu'on a appelé une période de stagflation, où on avait à la fois une stagnation de l'activité économique et une forte inflation. Au début des années 80, on a des taux d'inflation annuels qui excèdent 15%.
Mais justement, à l'époque, ça pouvait être intéressant pour les gens qui avaient un prêt immobilier à taux fixe, puisque finalement, ils payaient des mensualités de moins en moins importantes.
Tout à fait, Eric. Et nous verrons dans les émissions suivantes qu'il n'y a pas que des perdants à l'inflation, qu'on peut être gagnant à l'inflation et qu'en particulier les emprunteurs, en fait, toutes choses égales par ailleurs, sont gagnants à l'inflation. Mais là, je laisse ça pour une autre émission. On verra les conséquences de l'inflation. Sur l'arrière-plan historique, je voulais juste préciser. En fait, au 19e siècle et jusqu'au milieu du 20e siècle, il n'y a globalement pas d'inflation en France. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de hausse des prix. Il y a simplement des périodes d'inflation auxquelles succèdent des périodes de déflation, c'est-à-dire de baisse des prix carrément. Ce qui fait que sur un siècle et demi, globalement, les prix ont très peu augmenté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des périodes d'inflation. Mais sur l'ensemble de la période, les prix sont restés à peu près stables. C'est à partir du retour de la Seconde Guerre mondiale que les prix, que l'inflation en fait est devenue positive chaque année. Et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, avec simplement un petit décalage dans le temps, à partir de l'euro, effectivement, on est tombé à des taux d'inflation annuels quasiment nuls, et sur les 20 dernières années, on était à un taux d'inflation annuel compris entre 0,5 et 1% par an. Alors c'est vrai que là, 6% en une année, ça faisait 25-30 ans qu'on n'avait plus vécu ça. Donc on est bien dans une année exceptionnelle de ce point de vue, ouais. Même si sur le long terme, c'est pas si exceptionnel que cela.
Ouais, alors d'ailleurs, ça pose une autre question, mais tu y répondras certainement dans une prochaine émission. C'est comment en est-on arrivé à une situation aussi longue d'inflation aussi basse? J'imagine que c'est une volonté économique et politique à la fois.
Oui. Enfin, l'inflation est la norme depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, on a réussi à juguler cette norme pour des raisons politiques. Tu as tout à fait raison. Et à la suite de mesures préconisées par les économistes dominants. Et nous verrons ensemble pourquoi, justement, on a voulu lutter contre l'inflation, comment on est parvenu à lutter contre l'inflation et pourquoi l'inflation est revenue en force cette année. Et donc, je te propose de répondre à toutes ces questions à partir de la prochaine émission.
Très bien, eh ben, c'est un programme tout à fait alléchant. Merci Renaud, et à la semaine prochaine.
Merci Eric, merci à tous nos auditeurs, et je vous donne tous rendez-vous, j'espère avec une voix un peu moins rocailleuse, la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Sur Radio Valois-Mulcien, vous venez d'écouter L'économie pour tous par Eric Carlier et Renaud Chartois.